ce Samaritain revient, il tombe à genoux, et il remercie, il rend grâce, il glorifie le Seigneur, et Jésus prend la parole. Et Jésus se montre émerveillé. Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? Voilà un émerveillement malheureux. Dans cet émerveillement, nous voyons exactement ce que le péché fait en nous. Vous savez que Paul, dans l'épître aux Romains chapitre 1, donne deux caractéristiques du non-chrétien. Il dit, parce que ils n'ont pas glorifié Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Et le péché fait de nous des personnes sans gratitude envers Dieu. Et en tant que chrétiens, nous sommes à moitié guéris. Et une partie de la vie chrétienne, c'est d'être sensibilisé à ce fait malheureux de notre être et de notre relation avec Dieu. Dans ce Samaritain, nous voyons ce que nous devrions être. Et ce retour que nous allons voir est tellement magnifique aux yeux de Jésus. Parfois, dans la vie chrétienne, nous voulons faire quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Mais en fait, l'extraordinaire appartient à Dieu. Et dans la vie chrétienne, nous devons nous habituer au fait que, principalement, ce que nous faisons en tant que chrétiens, le fondement de notre vie chrétienne, n'est pas de faire quelque chose de grand, mais de remercier le Seigneur pour sa grandeur et pour ce qu'il fait de grand. Une fois que nous sommes dans cette position, c'est lui qui fait le grand, c'est nous qui sommes des reconnaissants, tout le reste de la vie chrétienne peut se faire comme il le faut. Voilà le grand fait, cette réalité de l'ingratitude et en face de l'attente du Seigneur que nous devenions des gens qui vivent du don de Dieu, qui vivent de l'extraordinaire grandeur de son amour et de son action envers nous. Deuxièmement, un avertissement important. Faisons attention à la justice propre qui tue l'ingratitude. Nous voyons dans l'Écriture que Jésus enseigne souvent par des questions, et il le fait ici. Nous revenons à ces questions. Jésus prit la parole dans le verset 17 et il dit, les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Première question. Deuxième question. Mais les 9 autres, où sont-ils? Troisième question. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Je me demande combien de temps s'est passé entre la première question et la deuxième. Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9. Où sont-ils? Et puis, Jésus identifie celui qui est venu et il semble peut-être donner un petit indice. Ne s'est-il pas trouvé, il n'a pas dit ce qu'il aurait pu dire, ne s'est-il pas trouvé que cet homme, pour revenir donner la gloire à Dieu, il aurait pu dire. Mais il dit, cet étranger. Et nous pouvons bien nous demander qu'est-ce qu'il y a dans la mentalité du peuple juif de l'époque de Jésus en général. Je dis en général parce qu'il y a des hommes et des femmes vraiment convertis dans ce peuple, mais la majorité ne le sont pas, nous le savons par la suite des choses. Et qu'est-ce qu'il y a dans la mentalité juive de cette époque qui tue la gratitude? Et nous savons que le grand problème, c'est cette justice propre. Le livre de Romains, chapitre 9, nous dit ceci. Que dirons-nous? Les païens qui ne cherchaient pas la justice n'ont pas obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui recherche une loi qui donne la justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Quel est le problème chez Israël de l'époque des Écritures? Parce que Israël a cherché non par la foi et par la grâce, mais comme provenant des œuvres. Et nous pouvons spéculer un peu, et il me semble qu'il y a peut-être deux possibilités pour expliquer ce non-retour des neuf juifs alors que l'étranger revient. Première idée, peut-être les juifs se voient guéris et disent, dans un sens, pas à haute voix, mais ce Samaritain, il est tout émerveillé, il revient pour remercier ce prophète, mais nous, nous sommes juifs, ça nous appartient, les œuvres de Dieu. Nous sommes les élus, et oui, Dieu nous a promis cette bénédiction. Donc il peut y avoir une sorte d'idée de revendication, l'esprit que cela nous appartient, comme nous voyons dans la société française parfois par rapport aux acquis sociaux, n'est-ce pas? On vous donne des choses énormes et puis vous... Oui, mais c'est normal, n'est-ce pas? Nous ne savons pas à quel point nous sommes indignes d'un don. Et donc, quand ce don nous est donné, nous manquons de gratitude. Et nous devons nous examiner tous par rapport à ça, bien sûr. Si nous savions, et nous ne pouvons pas savoir totalement, c'est l'œuvre de Dieu qui nous sensibilise à quel point nous sommes. Ce qui est étonnant, c'est que nous ne soyons pas tous à l'enfer en ce moment même. C'est ça qui est la merveille. Si nous le savions, les anges s'en étonnent. Mais si nous le savions. Deuxième idée, c'est que, imaginons qu'ils sont arrivés à mi-chemin et ils se voient guéris. Et ils savent, selon l'Ancien Testament, un lépreux guéri doit se rendre au sacrificateur pour que le sacrificateur l'examine et confirme et annonce sa guérison. Ça va dans le sens de Jésus qui le renvoie. Imaginons que ces juifs se disent, puisque pour eux, ce qui compte, c'est l'obéissance à la lettre, n'est-ce pas? Ils disent, oh, c'est formidable, mais il faut qu'on arrive au sacrificateur, c'est ça qui est important. C'est une autre forme de justice propre, parce que ce qui est vraiment important, c'est que je garde les règles, les petites règles, c'est que moi je suis correct. Moi, je suis toujours dans la norme. Je vais arriver à faire tout ce que la loi me dit. Alors que la chose que la loi te dit, c'est d'abord que lorsque Dieu te sauve, tu rends de grâce. Quoi qu'il en soit, il y a certainement quelque chose qui tue la gratitude chez les neufs, et en toute probabilité, c'est lié à cette attitude de justice propre. Nous devons donc faire attention nous-mêmes et demander à Dieu de nous en garder. Troisièmement, une question vitale. Qu'est-ce que c'est en fait les actions de grâce, la gratitude, et comment est-ce que ça marche dans ta vie de chrétien? Et cet incident peut nous donner quelques idées. D'abord, au sujet de la source de gratitude, de quelqu'un qui vit dans la gratitude et le caractère de la gratitude. Je m'arrête juste pour vous poser une question.
Alors, combien de personnes est-ce que vous connaissez qui sont caractérisées, si vous devez dire une qualité chez cette personne, par cette personne est stressée, tendue, ou cette personne est ambitieuse, ou cette personne est inquiète, ou cette personne est frustrée, ou cette personne est paresseuse, ou cette personne est très reconnaissante. Alors, pour les premiers quatre, vous auriez probablement pu penser à un nom ou deux, ou même vous-même, mais combien de personnes est-ce que vous connaissez qui sont caractérisées, qui vivent dans une atmosphère de gratitude? Et comment est-ce que le chrétien ne peut pas l'être, lui qui était un lépreux mille fois plus grave que ce lépreux, un million de fois, la lèpre de l'âme? Donc, source de notre question, c'est comment est-ce que la gratitude marche? D'abord, source de gratitude et puis le caractère de gratitude. Nous voyons que si nous demandons pourquoi est-ce que la lèpre est tellement reconnaissant, pourquoi est-ce qu'il fait tout ce chemin de retour, il abonde en reconnaissance envers Jésus. Quelque chose a créé en lui une immense sens de gratitude. Eh bien, c'est la grandeur de son salut. Tout son statut est changé parce que le lépreux est exclu de la communauté juive. Sa condition physique est changée à tout jamais. Après ces années de souffrance physique constante, il vit conscient à tout moment, éveillé de sa lèpre. Et maintenant, il est délivré. Il est délivré d'une vie émotionnelle de pleurs, de misère. Pendant des années, sa vie est caractérisée par le regret du fait qu'il est lépreux. Et maintenant, d'un coup, il est sauvé. Comme nous avons lu dans le psaume tout à l'heure, il a sauvé mes pieds de la chute, mes yeux des larmes, mon âme de la mort. Et son avenir est complètement changé. Il vivait sur la malédiction de la loi et son avenir était déterminé par cette malédiction. Et maintenant, il vit sous la bénédiction de Dieu. Il est renvoyé libre par Jésus. Maintenant, tout son avenir est déterminé par une merveilleuse délivrance. Il va vivre en tant que l'âme délivrée, comme vous le faites tous les jours. Vous êtes délivré de vos péchés, vous êtes délivré de l'enfer, vous êtes délivré de l'aliénation avec Dieu que vous avez, dans laquelle vous viviez, vous êtes délivré d'une vie sans paix, sans but, sans comprendre la raison d'être, vous êtes délivré de mille maux, n'est-ce pas? Vous êtes délivré de l'enfer éternel et sans fin. Et maintenant, vous marchez devant l'Éternel sur la terre des vivants. Donc, la source de la reconnaissance, c'est la grandeur du bienfait que Dieu nous fait. Et n'est-ce pas, notre problème, c'est souvent que nous oublions à quel point Dieu nous a sauvés et Dieu nous a bénis. Si vous êtes pardonné, et si vous êtes juste devant Dieu, juste tous les jours, même quand vous marchez, si vous souillez les pieds, vous êtes lavé tout entier et Dieu vous considère comme juste devant lui. Malgré vos péchés, vous n'êtes pas justifié juste quand vous n'êtes pas en train de pécher. Vous êtes juste devant Dieu quand vous péchez et quand vous ne péchez pas. Ça vous alarme? Vous ne perdez pas votre justification. Dieu vous dit que même quand vous péchez en tant que chrétien véritable, vous êtes regardé comme un juste devant lui, en règle avec lui, mais en besoin de châtiment, de correction, bien sûr, mais un enfant bien-aimé, accepté Et tout ce qui était contre Dieu, vous, est déjà réglé. L'image de Dieu, c'est cet homme qui a pris un bain tout entier et qui a juste sali les péchés. Ça, c'est votre vie. Vous ne pouvez pas sortir de la faveur entière de Dieu. Qu'est-ce qui peut vous séparer de l'amour de Dieu? La vie, la mort, les choses hautes, les choses en bas. La Bible dit, rien ne peut vous séparer d'un millimètre de l'amour actif et de la faveur de Dieu qui vous chérit chaque moment et qui vous met votre âme en repos. Parce que maintenant, ça y est, vous êtes réconcilié. Et vivre une journée sans reconnaissance est une folie totale. Le jour que vous pouvez passer sans vous émerveiller, sans faire un retour, sans tomber aux pieds de Jésus, comme moi je manque de faire souvent, j'avoue, mais chaque jour que nous pouvons vivre sans faire ce que le lépreux fait, c'est une journée où nous avons complètement oublié qui nous sommes. Nous avons complètement oublié ce que nous avons dans le salut. Ne vous en faites pas si Virginie a un petit malaise. Et parfois, est-ce que ça va?
Un petit peu de l'instant.
Seigneur, nous voulons juste remettre Virginie entre tes mains et de prier que tu sois auprès d'elle et que tu la touches, la soutiennes dans son corps. Au nom de Jésus.
Amen.
Voilà la source, le caractère de la reconnaissance. Vous voyez ce que l'Écriture vous dit? Nous voyons dans le verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Est-ce que ça vous semble exagéré? Est-ce qu'une sorte de merci bien calme et tranquille aurait suffi? Pas du tout, parce que le caractère de la gratitude, c'est que cette gratitude doit correspondre à la grandeur du bienfait donné. Voilà. Et si la Bible parle de lépreux, la Bible parle de vous. Vous avez été guéri d'une plaie beaucoup plus grave que lui, et votre gratitude doit se manifester même physiquement parfois, en tombant à genoux devant le Seigneur et en lui disant « Oh, béni sois-tu, gloire à ton nom et ton sang. » C'est pour cela que Colossiens 2 n'est pas une exagération que David vous a lu lorsqu'il dit ceci. Marchez en lui, étant enraciné, fondé en lui, affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Abondé en actions de grâce. J'ai entendu un pasteur qui parlait sur la prière un jour, et il disait que dans son programme de prière de chaque semaine, les mardis, il ne demande rien. Il ne fait que remercier. Il a une liste de requêtes de prière pour tous les autres jours, mais il a une journée entière où il ne fait que lister, que parcourir la liste de tout ce que Dieu a fait pour lui et remercier. Je crois que c'est une habitude vraiment salutaire. Peut-être que nous devrions en limiter. Quatrièmement, une promesse merveilleuse. Si nous développons un cœur reconnaissant de plus en plus, quelque chose va arriver dans notre relation avec le Seigneur. Quelque chose de merveilleux va arriver, va changer dans notre relation avec le Seigneur. Je vous montre pourquoi je dis cela. Lorsque Dieu nous sauve, son salut n'est pas une fin en soi. Son salut est censé produire quelque chose. Et nous le voyons dans le cas du Samaritain. Le Samaritain, pour lui, la guérison, ce n'est pas une fin en soi. Bon, je suis guéri, c'est bon, c'est ce que je voulais. Je continue mon chemin. La guérison lui fait revenir à Jésus. Il veut encore plus de contact avec celui qui l'a sauvé. Parce que le sauveur est toujours plus grand que le salut. Toujours. Infiniment plus grand que le salut. Et le salut nous ramène émerveillés. Qui es-tu pour que tu m'aimes et pour que tu me touches avec une telle puissance? Donc, le salut est censé nous faire revenir à Jésus. Et dans ce retour de gratitude, quelque chose arrive. D'abord, ce qui arrive, c'est qu'il glorifie Dieu. Il est maintenant devenu non seulement un homme sauvé par Dieu, mais un homme qui, lui, glorifie Dieu. Et ça, c'est une chose immense. Ça, c'est la première chose. Mais deuxième chose, quelque chose arrive entre lui et Jésus-Christ à cause de sa gratitude et son retour dans la gratitude. Nous lisons à la fin du passage. Donc, il remercie le Seigneur. Et vous avez vu que les trois questions se posent à la foule. Maintenant, il tourne vers le Samaritain et quelque chose arrive entre lui et le Samaritain. Puis, il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Quand Jésus lui dit, « Lève-toi, va. » Ta foi t'a sauvé, il n'est pas en train de lui renvoyer tout simplement. Allez, c'est bon, c'est bien, je te renvoie. Ce n'est pas un renvoi. C'est une formule de bénédiction que Jésus prononce sur l'homme qui revient vers lui dans la gratitude. Maintenant, cet homme, puisqu'il est revenu dans la gratitude, reçoit quelque chose de plus profond de Jésus. Il a reçu une guérison. Mais maintenant, il reçoit d'abord la confirmation de la part de Christ que sa foi est acceptée. Ta foi t'a sauvé. Dieu reconnaît ta foi, accepte ta foi. Et à cause de ça, parce que cette gratitude est cette manifestation d'une véritable foi, je te dis, écoute-moi, va. Souvent, c'est « va en paix ». Mais c'est le même sens ici. Il le renvoie en paix. Il dit maintenant, continue ton chemin, bénis, sache non seulement que tu as eu un truc de ma part, une guérison, mais que maintenant, tout ton chemin sur lequel tu vas, va rester sur cette même bénédiction. Et nous aussi, lorsque nous revenons au Seigneur dans la gratitude, lorsque nous glorifions Dieu, lorsque c'est pas simplement le salut qu'on a vu, on a voulu, mais c'est le sauveur qu'on a voulu, quelque chose va arriver dans cette atmosphère de gratitude que c'est toi-même qui m'émerveille. Et nous allons recevoir des assurances, nous allons entendre des paroles du Seigneur envers nous aussi, qui dépassent notre guérison, qui vont aller un peu plus loin, qui vont toucher notre vie entière. Maintenant, une application pertinente. Et je dirais juste au sujet de ce dernier point, J'ai entendu un autre prédicateur dire que lorsque sa vie de prière se desséchait, il trouvait que cet homme s'appelait John Hyde. On l'appelait Praying Hyde à cause de sa vie de prière. Son nom de famille, c'était Hyde, mais on lui dit, on lui surnommait Hyde, le prieur. Et John Hyde disait que lorsque sa vie de prière se desséchait, il trouvait que souvent, le plus souvent, c'est parce qu'il avait laissé de côté les actions de grâce, la gratitude. Et lorsqu'il commençait à remercier le Seigneur encore, l'Esprit de Dieu venait sur lui encore. Parce que l'Esprit est attristé par l'ingratitude. Attristé par l'ingratitude. Voilà le dernier point, l'application opportune. Nous avons besoin d'être comme ce lépreux. Nous sommes ce lépreux, sauf pire. Et nous avons besoin d'apprendre de cet incident, de nous réjouir dans une vie de gratitude envers le Seigneur. Mais pour se réjouir, il faut se rappeler. Parce que notre salut se trouve loin dans le passé, pas à 5 minutes de marche ou 30 minutes de marche. Mais des années. Et la Bible nous exhorte. Vous savez qu'il y a au moins 20 des psaumes qui sont des psaumes historiques, qui racontent les œuvres de Dieu afin de nous rappeler qu'est-ce que Dieu a fait pour nous et susciter la gratitude, la joie dans le Seigneur et la gratitude. Et nous aussi, il est impossible de vivre une vie de gratitude sans s'arrêter et oublier tout sauf ce qu'il a fait pour nous. Pas nos fardeaux, pas nos ambitions, pas ce que nous voulons qu'il fasse de nouveau pour nous, mais que nous oublions tout sauf ce qu'il a déjà fait. S'arrêter, se rappeler et voir la gratitude vraiment devenir une partie de notre vie. C'est le chemin que nous devons prendre. Que le Seigneur nous aide et que nous puissions ainsi vraiment glorifier son nom, lui qui est si grand.